Liebe Brüder und Schwestern,
bonjour,
bienvenue
mes frères et sœurs, tous ceux qui sont en ligne. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. D'abord, je voudrais remettre cette attention fraternelle du frère Franck. Hier, il a pu voir en direct, en ligne, et il s'est réjoui de ce que le Seigneur était parmi nous et nous a bénis. Et sûrement que ce matin, de nouveau, il sera en ligne et suivre tout. Il va beaucoup mieux et nous nous réjouissons déjà de cela, de ce que il peut bientôt servir le Seigneur et être pour nous tous une bénédiction. Encore ce matin, nous voulons entonner quelques cantiques. Ensuite, le frère Alfred Borg nous lira une parole d'introduction. Et ensuite, je demanderai au frère Müller de l'Autriche de venir devant, de prier et en quelques paroles dire ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Et ensuite, nous avons aussi une prédication du frère Franck des années 89, du 3 septembre, de 89, 3 septembre. Et nous croyons que le Seigneur le bénira richement ce matin. Commençons avec le cantique 15.
Bye.
Stimmt das wirklich, Brüder und Schwestern?
Est-ce que c'est vrai, frères et sœurs?
Amen.
Es ist wirklich wunderbar, c'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur a fait à nous.
Bei ihm haben wir es wirklich gut, Brüder und Schwestern.
Nous avons vraiment bien en lui. Il prend soin de nous et encore ce matin nous sommes pleins d'assurance qu'il nous bénira de la plénitude de sa grâce. J'entends encore le numéro 18. J'ai besoin de toi en tout temps. Toi, Seigneur, plein de grâce. J'entends encore le dernier refrain. J'entends encore un chœur et le frère Alfred Borg viendra nous apportera la parole pour l'introduction.
Oh,
je voudrais voir celui qui mourut pour moi. C'est le... Gloire à Dieu. Nous voulons encore chanter un chœur. Le premier chœur. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest.
Ils viennent de l'Est et de l'Ouest.
Amen. Merci. Une question. Est-ce que le frère Müller est là ce matin? Est-il là? Merveilleux. Nous sommes reconnaissants à Dieu ce matin de ce que nous pouvons de nouveau être ici pour d'une manière nouvelle expérimenter Dieu. Je crois que tous nous avons été bénis hier soir parce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. C'était la parole de Dieu. Nous l'avons entendu de la bouche du frère Franck et les choses pour lesquelles il s'agit toujours, aussi aujourd'hui, dans les derniers jours dans lesquels nous vivons. Encore ce matin, j'ai lu une prédication de frère Branham. Et frère Branham dit, nous vivons à l'ombre de son retour. Si frère Branham, déjà, il y a 50 ans d'ici, oui, l'a dit, je vous pose la question, à tel point est alors ce matin le retour du Seigneur? Que le Seigneur, ce matin, par sa parole et par ce que nous allons voir et entendre, parler à nos cœurs. Je lis une parole avant que le frère Müller vienne et prie avec nous et aussi dise ce qui est dans son cœur. J'aimerais lire une parole dans le prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe. 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens.
Amen.
Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Est-ce que cela est vrai? Gloire à Dieu. J'annonce dès le commencement ce qui est arrivé. Il entend d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Tout ce que Dieu a dit et Dieu a promis, il l'exécute. Il a dit qu'il est présent là où deux ou trois sont réunis. Le Seigneur a dit, réunis en mon nom, je suis parmi eux. Croyons-nous cela? Nous ne pouvons pas le voir, bien-aimés frères et sœurs, mais il est présent par le Saint-Esprit. Le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Car je serai en vous, avec vous, et faire ce que j'ai fait alors que j'étais corporellement ici parmi vous. Croyons-nous cela, que le Saint-Esprit est présent pour accomplir ce que les Écritures disent, chaque promesse, telle que nous le lisons, chaque promesse de Dieu sont en lui, oui, et amen. Pour quelle raison? Pour glorifier Dieu par toi, par moi, pour la gloire de Dieu, pour nous, par nous. Que Dieu puisse avoir son chemin ce matin avec nous et chaque parmi nous. Et qu'il puisse recevoir tout ce qui lui revient de plein droit. Car c'est de ça qu'il s'agit. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que notre frère va de nouveau mieux et Dieu va complètement le rétablir. Croyons-nous cela? Gloire à Dieu! Car Dieu est fidèle. Il exauce encore aujourd'hui les prières. Que le Seigneur puisse nous bénir. Nous demandons que le frère Müller vienne et prie et dire ce qui est dans son cœur, s'il te plaît. Nous nous levons. Père céleste, fidèle, nous voulons devant le trône de ta grâce venir. Et je te remercie de ce que nous avons l'accès par ton sang précieux coulé, versé, et que tu connais la requête de nos cœurs. Mais nous voulons aussi te remercier pour la réunion de hier soir. Je voudrais te remercier et te remettre cette réunion maintenant entre tes mains. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous accorder ta parole et qu'elle puisse demeurer dans nos cœurs, bien-aimé Seigneur. C'est seulement comme ça que tu pourras la sceller. Loué et exalté soit ton merveilleux nom. Tu connais nos besoins, les besoins de mes frères, de mes sœurs. Oh, je te demande, bien-aimé Seigneur, nous nous remettons entièrement sur ton autel pour que tu puisses confirmer en nous ta parole pour l'honneur de ton nom. À toi soit la reconnaissance, la louange et l'adoration dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, mes bien-aimés, nous étions chez Frère Franck tout à l'heure. Et comme le frère Miskis l'a mentionné, il va de nouveau bien. Là-bas aussi, il a communion avec nous, comme il a fait déjà hier, là-bas de sa chambre. Mais je voudrais rapidement mentionner une parole dans Luc chapitre 11, connu de vous tous. Luc 11.
27.
Bénis le sein qui t'a porté, bénis les mamelles qui t'ont allaité. Il répondit, bénis plutôt ceux qui écoutent la parole et ceux qui la gardent. Mes bien frères et sœurs, on peut écouter beaucoup de choses de la parole de Dieu, mais il s'agit que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Et pour garder la parole dans nos cœurs, il faut d'abord que le cœur soit vidé de tout le reste. Et ici, il n'y a pas non plus de mélange. Il n'y a pas de mélange possible. Et peut-être rapidement, dans Éphésiens 1:13, à cause du temps, je vais seulement être rapide. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et en note en bas, il est écrit que c'était un signe d'appartenance. Mes frères et sœurs, si la parole est scellée dans nos cœurs, alors l'adversaire n'a aucune puissance même. Il ne peut pas la faire sortir de nos cœurs. Ça lui est possible peut-être de tuer le corps, mais il n'a pas de puissance sur le cœur. Ça lui est peut-être permis, mais de nous mener à la mort, mais nous avons reçu, mais bien mes frères et sœurs, comme c'est écrit ici, au verset 14, un gage de notre héritage. Nous avons reçu ce gage, que son nom soit loué, mon cœur brûle et est débordé et déborde. Nous avons été élus avant même la fin du monde. Il ne s'agit pas seulement de l'appel à sortir. Et l'appel à sortir doucement va vers sa fin. Mais il s'agit maintenant d'entrer. D'entrer. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Si sa parole est en nous, il faut que par nous cette parole soit manifestée. Sinon, c'est possible que nous nous imaginons des choses. Mais si notre Seigneur dit que ce sera comme du temps de Noé ou bien de... Nous connaissons Noé. Nous savons de Noé. Il a prêché, il a construit l'arche. Mais s'ils n'étaient pas entrés, Dieu n'aurait pas pu sceller, n'aurait pas pu fermer la porte. Mais Noé n'a pas seulement construit l'arche, il est entré dans l'arche. Et ensuite, les autres n'avaient plus la possibilité, après que ce soit scellé, ils ne pouvaient plus entrer dans l'arche. Et ça doit être un exemple pour nous. Que chacun s'examine lui-même, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens. Est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il se tient dans la foi, 2 Corinthiens 13. Pas comme souvent nous avons entendu. Pas que un examine l'autre, mais que chacun s'examine lui-même. Est-ce qu'il est dans la foi? De Corinthiens 13, verset 5. Je vous souhaite que vos cœurs aussi brûlent comme le mien. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous voulons maintenant entrer et recevoir de sa plénitude grâce sur grâce. Que son nom soit loué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, remercié soit le Seigneur pour une telle certitude dans le cœur et une attente. Nous devons tous l'avoir. Et frère Branham disait, Dieu lui-même met le désir en nous. Sinon, nous ne serions même pas venus dans la maison de Dieu, nous n'aurions même pas de désir. C'est lui qui met le désir en nous. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici rassemblés et de nouveau pour écouter ce qu'il a préparé pour nous. Les salutations de frère Frank, je les ai déjà transmises. Il y a aussi plusieurs emails qui nous ont atteints. Je voudrais rapidement les mentionner. Les salutations de frères et sœurs de Oushkarot, c'est l'ouest de l'Ukraine, qui sont aussi en ligne, qui étaient en ligne avec nous hier et qui ont vu et qui ont entendu aussi des salutations de Phoenix, Arizona, salutations de Nairobi, de Nyagi, salutations de la Nouvelle-Zélande, de frère Lacke, salutations du Rwanda, de frère chauffeur de la France, du frère Safari, salutations du frère Donati, je pense que c'est de l'Italie, aussi des salutations d'un frère Max, je ne sais pas s'il est de l'Allemagne, il a écrit en allemand, ce sont les frères qui tous sont liés avec nous et qui se tiennent, qui prient aussi pour frère Franck, et tous nous avons le souhait que bientôt le Seigneur puisse le relever complètement et qu'il soit parmi nous et qu'il puisse servir le Seigneur. Et nous le croyons que cela aura lieu bientôt. Je voudrais simplement pour le dire, hier nous avons suivi deux prédications. Ce sont les émissions de télévision que le frère Franck a tenues à Berlin. Il y en a 500, à peu près 500. C'est pour cette raison qu'il est toujours dit, mesdames et messieurs, parce que c'était une émission de télévision pour que tous puissent savoir de quoi il s'agissait hier soir. C'était les émissions qui ont été tenues ou bien qui ont été différées à Berlin et qui ont été une bénédiction pour beaucoup. Et ce matin, nous allons de nouveau écouter une prédication de frère Franck. Je l'ai déjà annoncé, de septembre 1989. Je ne sais pas encore ce qui est comme sujet, nous allons nous laisser surprendre. Nous voulons de tout notre cœur suivre. C'est très important que nous puissions suivre et que nous soyons un avec la parole. Et comme le frère Branham disait, nous identifier avec la parole. Car Dieu parle par sa parole avec nous. Et nous devons écouter qu'est-ce que le Seigneur me dit. De quoi il s'agit? Où est-ce que je me tiens? Qu'est-ce que je dois faire? Ça devrait être notre question. Je suis convaincu que le Seigneur, ce matin, nous bénira richement. Nous entendons ce cœur, crois seulement, et ensuite nos frères vont faire les préparations et ensuite nous allons être bénis. ce qui touche nos cœurs, ce que la parole de Dieu nous dit et ce que nous croyons. Il y a eu déjà avant nous des hommes qui ont chanté ce que nous expérimentons maintenant. Déjà par l'esprit, ils ont ressenti et ils ont su que cela arrive. Les prophètes dans les Écritures ont annoncé à l'avance ce qui viendrait. C'est ainsi que aussi des poètes ont déjà exprimé ce qui arrivera. Et nous avons la grâce de recevoir, de voir ces choses dans leur accomplissement et de vivre dans le temps où réellement tout cela va à sa fin. Réellement, un temps si important dans l'histoire du salut n'a jamais existé. Les deux générations, l'une avant ou bien lors de la première venue du Christ et ensuite la deuxième maintenant avant son retour, sont réellement les deux les plus importantes dans l'histoire du salut. Et nous avons la grâce maintenant de vivre. Et pas seulement de vivre, mais aussi d'avoir reçu la vie de Dieu et d'être apporté ainsi en accord avec la parole de Dieu, par la vie de Dieu en nous. Il y a peut-être des milliards de personnes sur terre, mais seulement très peu dans ce temps ont trouvé la grâce devant Dieu. On pourrait s'étonner de voir ce petit troupeau et de le comparer avec tous ceux qui ne viennent pas au Seigneur. Et malgré tout, on doit remettre tout entre les mains de Dieu et d'être reconnaissant de ce qu'il nous a appelé à lui et que nous avons la grâce de lui appartenir. Nous voulons continuer avec l'observation de la parole et de nouveau richement laisser habiter la parole de Dieu parmi nous. Je voudrais du prophète Agé lire le deuxième chapitre, prophète Agé, deuxième chapitre, verset 4, Agé, chapitre 2, verset 4, jusqu'au verset 6.
Nun aber, sei getrost, Zerubbabel, so lautet der Ausspruch.
Maintenant fortifie-toi, Zerubbabel, dit l'Éternel, fortifie-toi. Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi. Donc dans Agé, chapitre 2, verset 4. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à la promesse que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Si nous prenons les parallèles de cette écriture et nous la rapportons dans le Nouveau Testament, alors nous constatons que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux a compris qu'il ne s'agit pas seulement de ce temps autrefois et qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui avait été fait à l'époque. Mais comme déjà souvent nous l'avons dit en insistant, ici il y a une prophétie qui est caché dans ces écritures et par la grâce nous pouvons comprendre et faire une comparaison avec le temps dans lequel nous vivons. L'Esprit de Dieu sonde toutes choses et nous laisse comprendre les contextes. Je crois qu'il est écrit dans Hébreux, le chapitre 12, que Dieu encore une fois ébranlera le ciel et la terre. Et il nous est aussi montré le contexte dans lequel cela a lieu. Hébreux, chapitre 12, verset 26. Et 27. Hébreux chapitre 12, verset 26. lui dont la voix alors ébranla la terre et maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ensuite, au verset 27, il nous est dit en expliquant ces mots. Une fois encore, indique le changement des choses ébranlées comme étant faite pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Ici, l'apôtre se réfère déjà à la fin de la fin des temps. Dieu, réellement, encore une fois, ébranlera le ciel et la terre. Tel que ici, dans le prophète Agée, il laisse dire au verset 5, je reste fidèle à Agée 2, verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite, aux promesses que j'ai faites avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Elle reste pareille. C'est pas possible autrement. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis, doit rester valable. C'est la seule chose qui subsiste, c'est-à-dire Dieu et ce que Dieu a dit. Les paroles d'hommes peuvent être prises et les plans peuvent être changés. Mais Dieu dit, mon dessein s'accomplira. Le dessein des païens sera anéanti. Les promesses que je vous ai faites, pas que quelqu'un de quelconque a fait, mais les promesses que j'ai faites avec vous quand vous sortiez de l'Égypte restent valables. Et mon esprit est au milieu de vous. Au moment où Dieu accomplit sa parole, alors l'Esprit de Dieu commence à agir. Et cela parmi le troupeau des rachetés par le sang. C'est là où la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu agissent toujours ensemble. Là où il y a la révélation de Dieu. Cette révélation a eu lieu par l'Esprit de Dieu. Car c'est seulement l'Esprit de Dieu qui révèle toutes choses, qui sonde même les profondeurs de la divinité. Là où l'Esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre, alors là la parole de Dieu est interprétée dans toutes les directions du ciel sans avoir la révélation authentique de la volonté de Dieu, sans que la révélation de la volonté de Dieu soit dans cette révélation. Car, il est écrit ici, au verset 6, car ainsi parle encore des armées, l'Éternel des armées, encore un peu de temps. Et ce encore un peu de temps a été ajouté, car cela aura lieu seulement une seule fois. Comme cela a eu lieu au commencement, c'est ainsi qu'à la fin, cela encore aura lieu. Et ce que Dieu fait sera unique. Et on ne pourra pas limiter, car les hommes veulent toujours imiter, veulent toujours de l'imitation. Dieu va faire une œuvre unique, mais courte et unique, tel que les prophètes l'ont annoncé à l'avance, l'ont vu, et c'est ainsi que cela aura lieu. Il est écrit ici encore une fois, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. On pourrait beaucoup lire là-dessus, même dans le même chapitre, ici dans Agée 2, à partir du verset 20, ici il est écrit, la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agée, le 24e jour du mois, en ces mots, parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. et que nous devrions encore continuer à lire. Déjà, tout cela montre ce que l'Armageddon va amener avec soi. La dernière vengeance, quand Dieu réellement va ébranler tout et que les montagnes et les rochers seront ébranlés et que le Seigneur va entrer dans ce qu'il a décidé contre l'humanité. Et on pourrait continuer à parler de cela jusqu'à demain matin et encore plus longtemps. Mais de Agé 2, lisons encore au verset 15, pour revenir à notre sujet déjà de commencer hier et que nous voulons continuer à traiter ce matin. Agé 2, verset 15. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Nous ne pouvons pas regarder aussi en arrière. Il nous est dit ici, considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel, alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Et quand est-ce que fut ce temps? Qui le sait? Je vais vous le lire. Quand est-ce que ce temps était? Ici, on doit regarder en arrière, il a été dit. Parfois, il est dit ici, même considérez donc attentivement ce qui s'est passé. Parfois, il nous a même dit de regarder ce qui s'est passé, mais pas pour critiquer, mais pour apprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le temps où nous n'étions pas dans la volonté de Dieu. Et déjà, le frère l'a dit tout à l'heure, je venais même de mettre déjà mon épingle là. Il a parlé de ça en Afrique. Agé chapitre 1. Ici, il est écrit au chapitre 1. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Agé 1, verset 2. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Aussi de tels gens ont existé qui disaient, le temps n'est pas encore là. Et ensuite, suivi la parole du Seigneur, est-ce que c'est le temps de demeurer dans vos maisons lambrisées? Hein? Et assis à vos belles tables, ou bien est-ce que c'est le temps de rebâtir la maison de l'Éternel et de s'asseoir à la table du Seigneur et de recevoir la nourriture du Dieu vivant? Et cela continue encore. Il est écrit ici, au verset 6, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Mais dites-moi, est-ce que cela n'est pas à peu près comme aujourd'hui encore notre état? Soyons sincères. Nous mangeons et nous avons encore toujours faim. Nous buvons et nous n'avons pas été désaltérés. Il y a quelque chose qui n'est pas comme Dieu veut l'avoir. Il y a quelque chose qui n'est pas comme ça doit être. Soyons sincères, s'il vous plaît. Nous sommes ici rassemblés devant Dieu et nous ressentons que Dieu a encore plus pour nous et qu'il veut bénir et qu'il veut vraiment ramener son Église dans l'état qui existait dans l'Église primitive. Et ça, il le fera. Nous avons semé richement, mais nous n'avons pas récolté tel que nous avons semé. Nous avons mangé, gloire à Dieu, que nous n'avons pas manqué de nourriture. Nous avons mangé, mais nous n'avons pas été rassasiés. Nous avons bu, mais nous n'avons pas, la soif n'a pas été désaltérée complètement. Alors le Seigneur a donné la promesse que les choses changeront. Et nous en sommes déjà reconnaissants pour cela. Dieu peut réellement changer toutes choses. Cela continue encore ici, dans le même verset. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Et qu'est-ce que c'était cela comme temps? C'était un temps dans lequel chacun bâtissait sa propre maison, était assis à sa propre table et faisait sa propre chose. À peu près comme dans les jours de Jésus, laissons-nous faire trois tentes. Nous n'avons pas besoin de faire trois tentes. Nous n'avons pas non plus besoin de construire une tente pour toi, une tente pour lui, etc. Non, ce dont nous avons besoin dans le royaume de Dieu, c'est l'édifice de Dieu. Pas un frère ici fait une chose pour lui, un autre frère fait un groupe pour lui, un autre frère fait un groupe pour lui. Ce dont nous avons besoin tous, c'est de travailler tous à la même œuvre, c'est-à-dire à l'œuvre de Dieu. Et de travailler tous ensemble à l'édifice que Dieu lui-même bâtit. Et que personne soit en train encore de faire quelque chose pour sa propre personne ou bien pour sa propre chose. Alors, quand on constate, on voit déjà tout le désordre et la détresse qui existe aussi dans cette génération, tout ce qui s'est passé déjà, combien de différentes directions ont apparu dans ce message, tout ce qui a été bricolé parmi le peuple de Dieu et la maison du Seigneur et le temple de l'Éternel, l'Église, a été détruite par de tels constructeurs, chacun bâtit sa propre maison. Son propre empire à l'intérieur du royaume de Dieu et la maison du Seigneur est détruite. Dieu va mettre fin à tout ça. Il exige les siens. Il revendique les siens. Il les a acquis précieusement de son sang. Ces âmes-là lui appartiennent et ils appartiennent aussi dans son édifice. Car le Seigneur lui-même l'édifie. Il fait que nous utiliser en tant qu'hommes qui peuvent faire ici sur terre ce qu'il leur donne, ou bien alors qu'ils doivent faire ce qu'il leur donne. Ce qui est important aussi, Agé, le premier chapitre, et cela au verset 12 jusqu'au verset 13. Agé chapitre 1, verset 12. Zorobabel, fils de Shéastil, Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Entendit l'avertissement de l'Éternel, leur Dieu. Et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donné l'Éternel, leur Dieu. En allemand, selon la mission qu'ils avaient reconnue que le Seigneur l'Éternel lui avait accordée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Dieu a envoyé un message prophétique dans cette époque en tant que dessein du salut et quelque chose de particulier devait s'accomplir et quelque chose de particulier s'est accompli. C'était comme ça lors de la première venue du Christ. C'est comme ça exactement dans cette génération dans laquelle nous vivons. Pas comme ça de vouloir s'élever et faire quelque chose de soi-même et d'interpréter, mais la parole prophétique au milieu du peuple de Dieu, placée, l'orientation spirituelle, l'enseignement divin pour que chacun puisse savoir quel est le chemin à suivre. Et nous avons aussi reconnu que ce ne sont pas des hommes qui ont parlé d'eux-mêmes, tel qu'il est écrit ici. Le peuple a reconnu que Agé, le prophète, était mandaté par l'Éternel. Et des saints hommes de Dieu ont été poussés par le Saint-Esprit pour écrire et annoncer tout ce qu'ils ont écrit et annoncé. Et les saints hommes de Dieu, le peuple de Dieu, écoutent la parole de Dieu. Et tous ceux qui maintenant appartiennent au peuple de l'Éternel ne peuvent rien faire d'autre. Ne peuvent rien faire d'autre que de prêter l'oreille au message divin de l'heure. De recevoir cette parole cachée, mais maintenant révélée, et de la croire, car c'est en cela qu'est manifesté, révélé, que nous sommes dans le royaume de Dieu, apportés à l'état actuel voulu de Dieu, dans laquelle nous avons la grâce de reconnaître que le temps pour ces choses est arrivé. Alors que le temps fut accompli. Ici, ils avaient dit, est-ce qu'il est l'heure? Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Le verset 2. Hein, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, l'abrisser, ou bien de rebâtir la maison de l'Éternel? Voilà. Il disait, le temps n'est pas arrivé de rebâtir la maison de l'Éternel. Non, le temps est arrivé pour rebâtir la maison de l'Éternel. L'église du Dieu vivant, la maison de Dieu en esprit, la tente d'assignation. Il faut que l'église, le corps de Christ, soit ramené dans l'état où il existait au commencement, tel que nous l'avons considéré déjà ce matin. Et je voudrais pour cela encore lire quelques versets bibliques. Les premiers dans Esdras, chapitre 28, versets 22 et 23.
Und auch Vers 23. Die Hand unseres Gottes waltet über allen, die ihn suchen, zu ihrem Heil.
La main de l'Éternel.
Wenn wir Gott suchen, waltet seine Hand über uns.
Donc, si nous cherchons l'Éternel, sa main demeure sur nous.
Ich lese es noch
einmal. Je relis encore une fois.
Die Hand
la main de notre Dieu se repose sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa colère sur tous ceux qui l'abandonnent. Et il s'est laissé trouver de nous. Quand nous regardons toute l'histoire, cela est Esdras 8, verset 22. La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Esdras 8, verset 22, la deuxième partie du verset 22. Je relis Esdras, il a lu chapitre 8, la deuxième partie du verset 22. Et maintenant, le chapitre 10, verset 1, cela me semble aussi très important dans ce contexte des choses. Esdras, chapitre 10, verset 1. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants. Et le peuple répandait d'abondantes larmes. Mais bien aimé, au moment où Dieu fait quelque chose, tous sont saisis. Jeunes et âgés, petits et grands, enfants et adultes, qui que nous soyons, quand l'Esprit de Dieu commence à agir, alors tous sont inclus dans cette action. Je voudrais aller dans Néhémie, le premier chapitre. Toutes ces choses vont ensemble et sont une leçon pour nous. Et je vous lis dans Néhémie chapitre 1, spécialement à cause de ceux qui pensent qu'ils étaient, ils n'avaient jamais été en captivité. Et ils viennent, il y en a qui disent, oh, ils sont nés dans une maison croyante, ils sont déjà consacrés au Seigneur, ils sont déjà croyants parce qu'ils sont nés dans une maison de croyants. Je vais vous lire une parole, car dans les Saintes Écritures, pour chaque état, pour chaque circonstance, pour tout, il y a une réponse. Et nous la trouvons ici, dans Néhémie, le premier chapitre, et cela au verset 2. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivés de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem.
und nach Jerusalem erkundigte, teilten sie mir mit.
Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Pas seulement ceux qui ont été en captivité, mais ceux qui sont restés, qui n'ont pas été en captivité, se trouvaient dans un comble malheur. Parfois on pense, oh, et on regarde aux autres et on dit, bon, eux ils ont fait ceci, ils ont affaire ceci, ils ont affaire cela. Non, nous sommes touchés. Nous qui n'ont pas été dans la captivité, nous sommes aussi concernés. Tout le peuple de Dieu, qu'il soit allé en captivité ou qu'il soit resté à Jérusalem, tous étaient concernés de cette manière ou de l'autre. Ici, il est écrit, les murailles dont au comble du malheur et de l'opprobre se trouvent, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. À quoi est-ce que ça leur servait d'être resté, de ne pas être allé à la captivité? Si la maison de l'Éternel et les murailles de la ville, tout fut détruit, qu'est-ce qu'ils avaient alors d'être restés? Qu'ils soient allés en captivité ou qu'ils soient restés à Jérusalem. Tous sont entrés dans un comble malheur. Et nous aussi, nous avons compris que les difficultés sont venues sur toute l'Église. Peut-être qu'on a été en captivité dans ceci et cela, qu'on a été dans une prison babylonienne, ou bien alors pas. Les problèmes nous ont tous concernés de toute manière. Pourquoi? Parce que la maison de l'Éternel, parce que l'Église, parce que le temple, parce qu'il y a eu une destruction et l'Église, la maison de l'Éternel doit être de nouveau rebâtie. Je ne sais pas si tous vous lisez l'Ancien Testament, mais là je me répète volontiers. Dans l'Ancien Testament, ce sont les symboles, les types, les images, des choses qui allaient arriver dans leur réalité, qui ont été données à l'avance par la grâce de Dieu pour tous ceux qui veulent le voir et l'expérimenter. Ensuite, il est écrit ici, et il relie le verset 3 à la fin, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. La fin du verset 3. Maintenant le verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, et cette prière, je ne vais pas entièrement la lire, mais au verset 8, il est écrit, souviens-toi de cette parole, en amont de cette promesse que tu donnas à Moïse, ton serviteur, comme ordre, ton serviteur de prononcer, lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Au commencement, nous avons lu dans le prophète Agée qu'il a été dit les promesses que Dieu a faites à son peuple au commencement demeurent valables. Ici, l'homme de Dieu se réfère de la même manière à ce temps d'autrefois. Et monte dans sa prière au Seigneur, que le Seigneur avait promis que si son peuple revient à lui, observe ses commandements et met sa parole en pratique, qu'il a promis de les rassembler et de les ramener dans le lieu qui existait au commencement. Et ici, cet homme de Dieu dit, oh, pense à cette promesse que tu as faite à Moïse. Je crois que notre Seigneur, et je m'excuse si un peu je le formule humainement, mais je crois qu'il n'y a rien d'autre qui touche le cœur du Seigneur quand nous lui amenons ses promesses, ce que sa bouche a prononcé, dans l'amour, nous lui apportons ça. Seigneur, tu l'as dit, nous croyons ce que tu as dit et ce que tu as promis. Nous le croyons. Pense à nous, pense à la promesse que tu as donnée à ton serviteur Moïse. Et vous allez voir que Dieu va devoir détendre son bras. Pourquoi? Parce qu'il fait qu'agir selon ce qu'il a promis. Et il avait promis que si son peuple revient à lui et observe ses commandements et les met en pratique, c'est à ce moment-là qu'il va devoir agir. Il ne pourra rien faire d'autre. Il sera obligé de le faire parce que c'est lui-même qui l'a prononcé. Ainsi, la vraie foi est ancrée dans ce que Dieu a promis. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'autre possibilité pour la vraie foi de s'ancrer qu'en dehors des promesses de Dieu. Et ici, la promesse disait bien clairement, s'ils reviennent à moi, s'ils observent mes commandements et s'ils mettent ces choses en pratique, alors j'agirai. Et alors, il a dit qu'il puisse penser aux promesses qu'il a faites quand ils sont sortis de l'Égypte. Et il pense à ses promesses et à l'alliance. Il a promis d'ébranler encore le ciel et la terre. Il le fera. Cette parole n'est pas écrite comme ça, qu'il doit le faire comme quoi nous donnons un ordre à l'Éternel. Non, personne ne peut lui donner un ordre. Mais il est lié à sa propre parole. L'Écriture ne peut pas être brisée. Son dessein doit s'accomplir. Ce qu'il a promis est certain et s'accomplira. Dieu lui-même prendra soin de cela. Je voudrais lire dans le prophète Néhémie, continuer à lire. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Ils savaient exactement. Tant qu'ils étaient éparpillés dans la captivité, sans ville, sans muraille, sans bâtiment, ils étaient l'opprobre. Donc là, une cause de honte pour les autres. Mais au moment où l'état primitif était rétabli, ils n'étaient plus un opprobre. Alors tout le monde avait crainte devant ce peuple parce que Dieu est avec eux. C'est la même chose encore avec nous. Nous avons vu beaucoup de choses, nous avons semé beaucoup, mais peu recueilli. Nous nous sommes étendus, ça ne suffisait pas. Nous avons mangé, nous sommes restés encore affamés. Nous avons bu et la soif ne fut pas désaltérée. Mais Dieu, lui, a la plénitude. Il a la plénitude et il veut répondre à nos besoins. Dans son église rétablie, rebâtie et déverser tout ce qu'il a promis et la rétablir ainsi. Et tout ce qu'il a fait au commencement, il veut le faire à la fin. Il le fera à la fin. Pouvez-vous croire cela? Pouvez-vous croire cela? Moi, je peux le croire. Car c'est ainsi qu'il a promis de rétablir l'église de Jésus-Christ telle qu'elle était au commencement dans les Actes des Apôtres. Regardez ce qui est écrit encore dans Néhémie, chapitre 3. Néhémie, chapitre 3, nous lisons peut-être à partir du verset 33 et
34.
Néhémie 3, verset
33.
Néhémie 3, verset 33. Après, qu'est-ce que font ces Juifs? Verset 23. Après, au Benjamin, travaillèrent vis-à-vis de leur maison, après
Ils
ne voulaient pas leur permettre. Après, leur travailleront les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Ils se demandaient, est-ce qu'ils vont rétablir tout? Ici est le mot rebâtir et vivifier. Nous devons être, en tant que pierre vivante, dans la maison de Dieu. Maintenant, ici, un circoncis, un incroyant, pose la question. Regardez ces juifs incroyants. Tout est dans... Les pierres sont brûlées. Est-ce que quelqu'un pourra les vivifier, c'est-à-dire les reformer? Est-ce qu'elles pourront être utilisées? Néhémie 3,
34.
Homme de Dieu, est-ce que c'est Néhémie 4, verset 1. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samaria, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? En allemand, c'est le chapitre 3. C'est à cause de ça que j'ai dû chercher. En allemand, c'est le chapitre 3, mais en français, c'est le chapitre 4. Chapitre 4, verset 1 et 2. Il se posait la question. Relisez, pardon, le chapitre 4. Néhémie, chapitre 4. Nous nous excusons. Verset 1, 2 et 3. Oui, chez Dieu, tout est possible. Des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu. Oui, tout est possible. Même si nous avons été déformés, notre Dieu peut tous nous rendre nous ajuster dans l'édifice. Tout est possible. La question était, à quoi travaillent ces Juifs? Les laisserait-on faire? Oui, il y a un Dieu au ciel qui peut vivifier, qui peut rebâtir tout ce que Satan a détruit. De ce désordre, Dieu peut faire quelque chose de nouveau, de quelque chose de merveilleux. Et nous faisons toujours bien quand nous ne regardons pas à nous-mêmes, mais réellement dans la foi, donner tout l'honneur au Seigneur et entièrement lui faire confiance. L'incroyant, l'incirconcis dit, mais que font ces Juifs impuissants? Laisserait-on faire? Qu'est-ce que cela veut dire, impuissant? Le mot impuissant vient de sans puissance. C'est seulement une parole qui a été mise ensemble. Mais que nous soyons sans puissance, ça nous le savons déjà. Mais que nous avons un Dieu tout-puissant, ça nous le savons aussi. Et nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous ne disons pas, c'est nous qui avons la force et nous pouvons. Nous disons, Seigneur, nous voici. Nous ne pouvons rien faire. Est-ce que notre Seigneur n'a-t-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire? Et ça, nous l'avons compris avec beaucoup de malheur, de douleur. Sans lui, c'est vrai, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons détruire des armées et sauter des murs, des murailles. Avec lui et par lui, nous pouvons être vainqueurs et nous serons vainqueurs. Est-ce que de ces ruines, ces Juifs impuissants-là pourront faire quelque chose? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies? Oh, j'espère qu'aujourd'hui nous avons cette leçon. Que ce soit que nous soyons revenus ou bien dans la captivité, ou bien rester à Jérusalem, l'état est la même pour tous. La maison de l'Éternel est en destruction. Mais la question qui était ici peut être bien répondue. Que font ces Juifs impuissants? On pourrait dire, que veut ce petit groupe-là, là-bas, qui s'imagine être particulièrement béni par Dieu? Vous savez comment est-ce que les gens parlent? Ils disent, oh, si ça c'est une chose de Dieu, alors le pape et le monde entier parleraient d'eux. Et alors les médias les écrirai dans les journaux. Combien de fois j'ai entendu, mais nous n'avons jamais entendu parler de vous. Mais comment est-ce que cela est possible? Moi, je me demande aussi. Mais ce serait le temps, n'est-ce pas, que cela soit entendu de tous les hommes. Et ne vous inquiétez pas. Aussi certain que autrefois, cela fut connu de tous les peuples, qu'une captivité avait eu lieu. Il fut aussi connu que le peuple de Dieu revint de la captivité, et que le Seigneur était avec eux, et qu'ils ont rebâti et achevé l'œuvre, et que le Dieu du ciel était avec son peuple d'Israël. Cela a été reconnu aussi à l'époque, que aussi dans ces jours, que cela soit manifesté, que nous ne sommes pas quelqu'un de quelconque, mais que nous sommes ceux qui sont revenus de la captivité et que nous sommes l'Église du Dieu vivant rebâti, pas une reddition, une communauté pieuse avec une nouvelle direction, mais le corps du Seigneur, des pierres vivantes dans l'édifice vivant du Dieu vivant. Et de nouveau, à ce texte, je le lis pour que je n'utilise pas mes propres paroles. Cela, le verset, la deuxième partie du verset, le premier verset, à quoi travaillent ces juifs impuissants? Chapitre 4, verset 1. Question. Les laisserait-on faire? Sacrifieront-ils? Question. Vont-ils achever un jour? Point d'interrogation. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Point d'interrogation. Un point d'interrogation l'un après l'autre. Mais Dieu, et parmi toutes ces questions posées par les hommes, a mis un point d'interrogation. Vraiment, grand. Et a confirmé sa parole parmi son peuple. Et a fait l'impossible. Et la même chose aura lieu. On peut dire simplement, il y a un petit groupe là-bas. Ils croient qu'ils comprennent de la bonne manière la parole de Dieu. Ils pensent être quelque chose de particulier. Nous ne pensons rien du tout. Nous croyons simplement comme l'a dit les Écritures, les Saintes Écritures. Et nous nous sentons honorés et privilégiés de ce que Dieu nous a visités dans sa grâce de cette manière. En tant que les moindres, il nous a vus dans sa grâce. Les plus petits, nous avons eu la grâce de croire comme le dit les Saintes Écritures. Et aussi en cela, nous nous réjouissons de tout notre cœur et nous sommes reconnaissants de ce que nous ne sommes pas en train de suivre et nous ne sommes pas allés à différentes directions. Mais nous suivons la direction divine et que nous avons la grâce de persévérer dans la patience jusqu'à que l'heure de Dieu frappe et que l'édifice de Dieu devant nos yeux soit rétabli et que le Seigneur, d'une manière nouvelle, puisse se manifester. Toutes ces points d'interrogation que font, à quoi travaillent ces juifs impuissants? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Ce n'était pas aux Juifs de le faire. C'était le Dieu du ciel, le Dieu du peuple d'Israël qui s'était donné ce devoir et qui a rendu tout cela possible. Ce n'est pas les Juifs qui ont pu achever cette œuvre. Aujourd'hui, on poserait la question. Pensez-vous que vous allez réussir à achever l'œuvre? Oh là là, nous allons tout de suite dire. Mais nous n'avons même pas commencé à essayer de réussir quoi que ce soit. Mais nous nous mettons à la disposition de Dieu. Et c'est lui qui peut faire même de vases qui auparavant n'avaient pas réussi. Comme c'est écrit dans Jérémie 18. Il peut faire des vases qu'il pourra utiliser. Souvent, nous avons eu à le dire. Comme au prophète Jérémie, il fut montré dans le chapitre 18. Il lui a été demandé d'aller, n'est-ce pas, au potier. Il devait aller et il a vu comment est-ce que le potier était en train de faire un vase. Je dois être sincère. J'aime beaucoup beaucoup de professions. Je n'en connais aucun correctement. Mais ce que j'aime mieux voir, c'est le travail, la profession de potier. J'ai regardé une seule fois avec un enthousiasme intérieur de tout mon cœur. J'ai regardé comment est-ce que le vase est formé. C'est majestueux de voir comment est-ce que cette pâte est frappée sur le plateau. Et ensuite, il commence seulement un peu comme ça de spécialité avec les doigts. Et il sait comment est-ce que tout d'un coup, on ne sait pas comment ça se passe, mais tout d'un coup, on voit un vase apparaître. Et avant même qu'on ait regardé, si rapidement, on a un vase de cette grandeur. Et je vous dis, mais comment est-ce possible? Ça venait d'être devant mes yeux qu'une patte. Hein, qu'une patte, un peu comme ça, comme une masse. Et subitement, c'est un vase. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et n'est-ce pas, en Israël aussi? Frère Rousse dit en Israël, une fois en Israël. Une fois même en Israël, n'est-ce pas? Tout ce qui était là, présent. Mais je l'ai vu une fois aussi, il y a des pays où il y a des spécialistes. Ils vivent de cette formation. Et c'est quelque chose de merveilleux. Comment est-ce qu'un vase est formé? Notre Seigneur a dit au prophète Jérémie, va dans un atelier de potier. Et là, je vais parler avec toi. Et qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que Dieu voulait lui dire? Un vase venait de ne pas bien fonctionner. Le potier n'a pas réussi un vase. Et le vase venait de se briser. Si toi et moi, tu brises un vase, parfois quand c'est quelque chose de précieux, ou bien une assiette, hein, ça arrive qu'une assiette se brise. Mais si le Seigneur le fait, alors ce n'est pas pour toujours briser. Et entre ses mains, ce qui est brisé peut devenir une masse qui peut de nouveau former et ramollir et reformer. Ça, le prophète Jérémie a pu le voir de ses propres yeux. Quand nous brisons quelque chose, c'est que des morceaux qui restent. Mais quand le Seigneur brise quelque chose, il peut remoulir, faire devenir ces morceaux de nouveau une masse qui peut de nouveau reformer et que cela puisse devenir un vase qu'il pourra utiliser. Combien nous pourrons encore lire de versets bibliques. Je suis fortifié par toutes ces paroles bibliques, par l'action de Dieu, par l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas que ce soit des hommes qui se seraient élevés d'eux-mêmes, non, mais que le peuple de Dieu, dans le temps convenable, reconnaisse ce qui est dans le plan de Dieu et ce qui doit arriver. Et qu'il puisse dire Amen à ce plan et qu'il pouvait dire Amen à ce plan, être d'accord et se soumettre à ce que Dieu faisait dans leur époque. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui aussi comme autrefois. Pas seulement de savoir ce que Dieu a promis, mais de se mettre à sa disposition et de dire Seigneur, quoi que les gens ont à faire comme remarque, cela ne devrait pas nous déranger. Nous savons ce que tu as promis. Ils peuvent mettre des points d'interrogation comme ils veulent, l'un après l'autre. Mais nous savons, et que nous sommes aussi impuissants, que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, ça nous le savons aussi. Mais de la même manière, nous savons que le Seigneur, lui, est tout puissant. Et ça, ce n'est vraiment pas le temps où chacun est assis dans sa maison, lambrisé et construit sa propre maison. Je ne parle pas terrestrement. Nous avons tous nos maisons et tout est en ordre. Mais je parle de l'édifice du Seigneur, de la maison du Seigneur, qui forme un seul corps. Que Dieu puisse et tous ceux qui appartiennent à son peuple, que maintenant Dieu puisse accorder sa grâce à tous, de reconnaître que le temps n'est plus là où l'un forme son propre groupe et l'autre de nouveau forme son propre groupe et que chaque frère va dans son propre chemin. Ce n'est plus le temps de nos propres chemins, de nos propres voies, de nos propres pensées, de nos propres groupes. Ça n'a pas suffi. Vous avez lu? Ils ont fait leur propre groupe, ils ont mangé, ils n'ont pas été rassasiés. Ils ont bu, leur soif n'a pas été désaltérée. Leur propre groupe ne leur a servi à rien. Maintenant, Dieu veut changer tout cela. J'espère que Dieu nous exauce et que nous reconnaissons que le temps de l'heure où tout doit changer aussi est arrivé. Aussi dans notre pays, vous savez que le mot changement est devenu comme une moquerie. Celui qui veut le comprendre. Mais nous ne parlons pas ici des choses terrestres. Nous parlons d'un changement spirituel. Le temps est là où nous ne devons plus être en train d'être à l'œuvre dans nos propres affaires, dans notre propre groupe, dans notre propre communauté, comme le frère Rousse l'avait dit aujourd'hui. L'entonner dans le cantique. L'œuvre dans laquelle nous nous tenons est la tienne, ô Seigneur Jésus. Et si je ne savais pas à 100% que cette œuvre est l'œuvre de Dieu, véritablement, je serais assez véritable pour fermer ma Bible et pour aller dans mon appartement. Mais parce que je sais que c'est l'œuvre de Dieu en laquelle nous nous tenons, dans laquelle nous nous tenons, que tous les autres puissent fermer leurs portes et laisser Dieu agir et se soumettre à lui pour qu'une fois pour toutes, le corps du Seigneur vraiment se retrouve et que les pierres soient appelées à sortir et rassemblées de tout ce désordre et cet ensevelissement et que le Seigneur puisse les vivifier. C'est ce qui me plaît ici le plus. Des Juifs impuissants, mais un Dieu tout puissant. Des pierres, monceaux de poussière et consumées par le feu, est-ce qu'elles pourront être vivifiées? Oui, elles pourront retrouver la vie. Pourquoi? Parce que s'il y a un Dieu vivant qui bâtit un édifice vivant, et cet édifice vivant est son Église, et c'est son affaire, c'est son œuvre de vivifier. Et nous savons que notre Dieu vivifie. Il nous donne la vie, il nous accorde la vie, il nous vivifie. Il nous apporte en accord les uns avec les autres et avec sa parole. Pas en tant que des gens qui restent assis et qui disent: mais comment est-ce que nous devrions sur une terre étrangère jouer, utiliser les instruments et chanter? Nous ne sommes plus sur une terre étrangère. Nous sommes revenus dans la terre promise. Nous pouvons chanter les cantiques. Nous pouvons prendre nos instruments. Nous pouvons croire que ceci est le jour que le Seigneur vraiment a fait. Alors que le peuple d'Israël encore était à Babylone, les moqueurs sont venus et ont dit: mais chantez-nous maintenant vos cantiques de Sion. Prenez vos arpes, prenez vos instruments du mur et chantez-nous et jouez-nous. Ils n'ont pas joué et ils n'ont pas non plus chanté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment est-ce que nous pouvons chanter les cantiques de notre Dieu sur une terre étrangère? Ils sont restés calmes et silencieux. Mais quand ils revinrent à Jérusalem, est-ce que vous voulez que je vous lise ce qui s'est passé? Alors là, je vous dis que la terre a tremblé. Il y a quelque chose de particulier et d'unique qui s'est passé. Parce que tout le peuple qui avait à l'époque vu le premier temple et qu'il a revu, rebâti. Vous pouvez même vous-même le lire, ce qui s'est passé. Je vous lis dans Néhémie, le chapitre 8, connu de nous tous, ce texte que nous avons souvent lu, et aussi ici, la deuxième partie du verset 9. Néhémie, chapitre 8, verset 9. Eurem Gott heilig. La deuxième partie du verset 9. Néhémie chapitre 8, la deuxième partie du verset 9. Ce jour est consacré à l'Éternel. Votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit: allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen.
Amen.
Plus rien n'a besoin d'être dit là-dessus. Ils avaient compris les paroles qui leur avaient été lues et expliquées. Ils ont compris ce que Dieu fait parmi eux. Et déjà, ils sont allés pour mettre la parole de Dieu en pratique. Auparavant, ils avaient mangé et ne furent pas rassasiés. Ils ont bu et la soif ne fut pas désaltérée. Partout, un manquement. Mais maintenant, la plénitude, l'heure de Dieu avait frappé. Ne craignez pas, le Seigneur est avec vous. Nous croyons que Dieu vraiment est avec son peuple. Si il n'est pas avec ceux qui l'aiment, qui croient, qui suivent sa parole, avec qui est-ce qu'il devrait être? Non. Dieu est avec nous. Et nous persévérons patiemment jusqu'à ce jour glorieux dans lequel toutes les pierres de toute la désolation seront prises et vivifiées. La vie leur sera redonnée et elles serviront à l'édifice. Et à cela, Dieu lui-même dit, par le prophète Zacharie, pas par honneur ou par gloire, mais par mon esprit, dit le Seigneur, dit l'Éternel. Nous avons affaire à un Dieu tout-puissant et nous avons à attendre une action surnaturelle et puissante de l'Esprit de Dieu. Je le dis toujours de nouveau, le plus jeune sera comme David, le plus faible comme David et le plus fort comme l'ange de l'Éternel lui-même. C'est écrit dans la parole de prophétique. Et nous faisons bien de lire toutes les promesses. Alors la joie inondera nos cœurs. Alors la certitude inondera nos cœurs. Nous avons alors de la consolation et de la certitude et de la conviction du refuge à notre Seigneur, pour notre Seigneur. Avons-nous compris ce que nous avons entendu ce week-end de la parole de Dieu? Et aussi à tous ceux qui l'écouteront, que tous soient bénis. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Il se révélera d'une manière nouvelle. Il envoie sa parole à l'avance pour nous laisser savoir à l'avance ce qu'il s'est donné l'intention de faire. Et ensuite, nous suivons sa parole et il apparaît là où les hommes croient cette parole qu'il a envoyée et il confirme sa parole en ceux qui la croient et qui l'ont reçue dans la foi. Et ensuite, en eux et par eux, il la rend une réalité divine. Que personne dise, oh vous les croyants impuissants, mais que nous puissions parler de la toute-puissance de Dieu et arrêter de parler de l'impuissance des croyants. Et que personne puisse poser la question, qu'est-ce qui va devenir de cette église et comment est-ce que les choses vont devenir? Mais que chacun puisse dire, ces jours sont consacrés à l'Éternel, à lui soit l'honneur et la louange, maintenant et dans toute éternité. Vous pouvez le croire? Amen. Que Dieu est encore à l'œuvre et toutes choses lui sont soumises. Amen. Nous voulons nous lever et remercier le Seigneur. Mon Dieu. Chantons un chœur, tel que je suis, sans rien de moi. Nous voulons encore courber nos têtes, garder nos têtes courbées. Et je suis convaincu que l'Esprit de Dieu a parlé puissamment à nos cœurs ce matin et nous a vivifiés par sa parole d'une manière nouvelle et en nous a créé une soif, un désir ardent que nous aussi nous puissions devenir ces pierres vivantes pour l'édifice. Je voudrais vraiment donner la paix à tous ceux qui sont ici, particulièrement qui sont là pour la première fois ou bien alors qui n'ont jamais entendu de telles choses. Consacrez votre vie au Seigneur. Mettez tout entre ses mains. Faites-lui confiance qu'il est le grand maître et le grand potier. Grand potier. Il est capable de faire de nous des vases pour son honneur. Si quelqu'un veut consacrer sa vie au Seigneur ce matin, alors que tous les yeux sont fermés et les têtes sont courbées, qu'il puisse lever sa main et dire, Seigneur, je te consacre ma vie. Oh, que tu puisses me prendre entièrement. Fais de moi un vase pour ton honneur. Fais de moi une pierre vivante pour ton édifice dans ta maison. Fais-moi grâce, moi pécheur. Celui qui vient au Seigneur, celui qui veut venir au Seigneur de cette manière peut lever maintenant sa main. Et le Seigneur vous bénira. Merci, merci. Il y a beaucoup de mains qui sont levées. Le Seigneur vous connaît, il connaît vos cœurs, il connaît les désirs de vos cœurs. Nous voulons maintenant apporter la reconnaissance et l'adoration au Seigneur. Faisons-le maintenant ensemble. Père céleste, nos cœurs sont touchés de ta parole puissante, de ta grâce et fidélité, de tes promesses au Seigneur, telles que tu as aidé tes enfants dans n'importe quelle circonstance. Nous sommes aussi pleins d'attentes que, Seigneur, tu nous ramènes dans l'état primitif et tu accomplisses en nous ce que tu as promis dans ta parole. Seigneur, nous attachons à tes promesses et nous te demandons qu'elles puissent accomplir en nous tout ce que ta bouche a prononcé pour cette heure. Oh Seigneur, rétablis-nous en tant que ta maison, ta demeure où tu peux habiter et te manifester parmi nous. Nous vivons consacrés à toi. Oh, que tu puisses nous former à ton image, à ton bon plaisir. Bénis tous ceux qui écoutent et aussi tous ceux qui ont des difficultés et qui t'apportent leurs requêtes, exauce et réponds, ô Seigneur. Vois notre impuissance, l'impuissance de ton peuple, et vivifie-nous selon ta promesse et ta parole, Seigneur. Fortifie ton serviteur pour qu'il puisse encore plus rendre témoignage de ta vérité et ta grâce. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as parlé. Tu es ici présent. Nous ressentons ta présence. Oh, loué et exalté sois-tu pour toutes les paroles de la vie. Oh, loué et adoration sois-tu, te sois apporté. Alléluia. Donnez au Seigneur l'honneur. Louez son saint nom. Remerciez le Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Honneur et gloire soit au Seigneur. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Nous remercions le Seigneur. Alléluia. Dans le saint nom de Jésus-Christ.
Amen.
Amen. Nous pouvons nous asseoir un peu. Il m'a été dit qu'aujourd'hui, il y a le désir que quelques-uns se laissent baptiser dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en cet endroit, il y a toujours la possibilité de se laisser baptiser. Celui qui écoute la parole du Seigneur, celui qui croit, il peut, dans l'obéissance de la foi, se laisser baptiser. Et je demande que celui qui veut se laisser baptiser vienne devant pour que nous puissions encore ensemble prier avec eux. Y a-t-il des frères et des sœurs qui veulent se laisser baptiser? Levez-vous. S'il y a quelqu'un qui a le souhait de se laisser baptiser, venez s'il vous plaît maintenant devant. Venez maintenant devant. Et après cette réunion, le baptême aura lieu. Ici, vous avez consacré votre vie au Seigneur. Venez s'il vous plaît, tous ceux qui veulent se laisser baptiser. Est-ce que vous comprenez tous l'allemand? Je ne sais pas. Sinon, il est traduit français. Oui. Avez-vous tous consacré votre vie au Seigneur? Vous avez accepté le Seigneur comme votre sauveur personnel et vous êtes prêt à rendre témoignage devant les hommes que vous avez une bonne conscience, que le Seigneur a pardonné vos péchés et que maintenant vous voulez conduire une nouvelle vie, marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Si vous croyez vraiment que cela peut avoir lieu, il y en a encore qui arrivent. Gloire à Dieu. Oui, nous sommes reconnaissants à Dieu que le Seigneur appelle encore. C'est merveilleux, c'est encore le temps de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Nous voulons maintenant nous recueillir, nous lever, nous nous levons et consacrer nos bien-aimés frères et sœurs au Seigneur, que le Seigneur puisse les bénir. Frère Schmitt, prie avec nous. Père céleste, nous te remercions pour ta sainte parole, Seigneur, que tu envoies encore, comme toi-même tu l'as dit, Seigneur, elle ne revient pas vite, si ce n'est qu'elle ait produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Ainsi, nous voyons devant ta face au grand Dieu, Seigneur, que ta parole produit encore l'effet pour lequel elle est envoyée. Elle guérit, elle sanctifie, elle sauve, elle bénit. Tu es encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te remercions, Seigneur, de ce que maintenant encore des témoignages sont rendus et de ce que tu es sur le trône de la grâce et que tu ne l'as pas encore quitté. Les derniers ne sont pas encore venus, ô Seigneur. Que tu puisses nous accorder ta grâce pour que nous puissions faire entièrement confiance à ta parole. Nous te remercions pour ces âmes qui sont venues et qui ont rendu témoignage et qui veulent rendre témoignage et qui rendront témoignage de marcher devant toi et les hommes dans une bonne conscience comme témoignage que tu es leur sauveur et leur rédempteur. Bénis tous qui sont ici, bénis tous ceux qui écoutent et qui voient. Et nous voulons ensemble te louer, toi notre Dieu, dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chantons encore merveilleux, merveilleux, Jésus est le Seigneur. Vous pouvez tous vous asseoir. Oui, frères et sœurs, je suis touché et surpris de ces paroles merveilleuses que nous avons entendues aujourd'hui. Cela m'a donné un nouveau courage et beaucoup de choses ont inondé mon cœur de cette prédication de la parole. Je pense cela à vous tous. Nous connaissons les paroles de Matthieu 16, verset 18. Je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prendront pas contre elle. Le Seigneur lui-même bâtit son église et nous sommes déterminés à être ces pierres vivantes. Et ça, je voudrais encore le lire. Zacharie, chapitre 8, cette parole merveilleuse est écrite dans Zacharie, aussi une promesse. Là parle le Seigneur dans Zacharie, chapitre 8. Zacharie chapitre 8, verset 9.
9. So hat der Herr, der Herrscharen, gesprochen.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles.
Den Munde der Propheten vernehmt, nämlich an dem Tag, wo der Grundstein zum Wiederaufbau
des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. La parole du Seigneur doit de nouveau être dans sa gloire. Nous sommes la maison de l'Éternel. Bien, frères et sœurs, nous voulons vraiment donc fortifier nos mains. Fortifier nos mains. Et nous tenir. Nous tenir dans l'union, dans l'amour les uns avec les autres. Nous voulons nous aimer les uns les autres, prier les uns pour les autres, et nous tenir les uns pour les autres pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes. Il est écrit, nous devons apporter nos corps comme un sacrifice de bonne odeur. C'est notre culte rendu à Dieu. Romains chapitre 12, nous devons venir aux réunions et consacrer notre corps au Seigneur pour que le Seigneur puisse nous bénir. Il nous a bénis richement ce matin et il continuera à le faire. Le frère Franck salue tous dans le monde entier, tous ceux qui sont en ligne, tous nos frères et sœurs de tous les pays, les langues et les nations, ils nous saluent tous. Ils saluent tout le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais encore dire, particulièrement aux jeunes, maintenant à la fin du mois, il y aura une rencontre de jeunes à Lausbourg. Venez tous, vous tous qui avez vraiment un désir de vraiment expérimenter le Seigneur, venez à la rencontre, écoutez la parole du Seigneur, ayez communion avec le Seigneur et les uns avec les autres. Et tous ceux, je peux dire, soyez occupés avec la parole du Seigneur, lisez les prédications, écoutez les prédications, approfondissez-vous, car le Seigneur nous dit dans ses prédications comment nous pourrons aller de l'avant et être préparés. Nous sommes édifiés et préparés selon sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui êtes venus. Quoique frère Franck n'est pas ici, mais le Seigneur est ici. Et le Seigneur a béni. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Nous voulons encore une fois nous lever et vraiment de tout notre cœur lui apporter la reconnaissance. Tous, nous nous levons et nous élevons tous nos voix. Père Céleste, nos cœurs sont remplis de reconnaissance, de joie, car tu as parlé à nos cœurs. Tu as mis en nous une espérance vivante, que toi-même tu vivifies les pierres ensevelies. Tu redonnes la vie. Tu veux nous vivifier. Nous te remercions de ce que cela a lieu par ton esprit et par ta parole que maintenant nous avons entendue. Ô Seigneur, bénis tous ceux qui maintenant ont écouté ta parole. Que cette parole puisse produire du fruit pour l'éternité. Bénis jeunes et âgés, petits et adultes, petits et grands. Sois avec tous nos frères et nos sœurs partout sur terre. Seigneur, appelle les derniers à sortir. Que ton cri de grâce, d'appel retentit encore. Prépare ton peuple pour ton retour. Que nous soyons soucieux que ton église soit bâtie et que ce qui vient de toi ait lieu. Accorde-nous ce zèle et ce désir. Que nous ne soyons plus en train, Seigneur, d'être occupé à des choses secondaires et inutiles, mais que nous nous préparons quand ton retour est devant la porte. Nous te remercions aussi ce matin pour ta présence et pour les paroles de consolation. Seigneur, laisse-nous repartir dans ta paix et dans ta grâce. Accompagne chacun de nous. Conduis-nous dans toute la vérité. Et si c'est ta volonté, que tu puisses nous rassembler encore ici dans la bénédiction pour que nous puissions, ensemble avec notre frère Franck, nous réjouir dans ta présence. Nous te le remettons encore, lui, ton serviteur particulièrement. Fortifie notre frère. Accorde-lui un nouveau courage, une nouvelle certitude pour qu'avec joie il puisse, Seigneur, comme une trompette, faire retentir ta parole jusqu'à la extrémité de la terre. À toi soit la louange, l'honneur et l'adoration dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Honneur, gloire et adoration. Et que tout le peuple dise Amen.
Amen.
Amen. Amen.